la continuité. C'est-à-dire que ça substitue une expérience qu'on pourrait qualifier d'artificielle à une expérience qu'on pourrait qualifier d'originale. Alors, il se trouve que penser ce qui se joue là, d'une part, et ajouter à cet élément le fait que la musique est ensuite diffusée, ce qui n'a pas eu lieu quelque part, un jour quelque part, ici et maintenant, se trouve ensuite diffusé, c'est-à-dire existe sous la forme, alors j'ai proposé cette expression-là, ici et là. Donc ça pose, en fait, penser toute cette affaire à un certain nombre de problèmes philosophiques assez compliqués, puisque je vais essayer de vous le montrer petit à petit, parce que j'ai 3 séances pour ça. Ça pose un certain nombre de problèmes philosophiques compliqués, notamment parce que, d'une certaine manière, ça nous oblige à penser radicalement dans une expérience qui, au fond, n'a l'air de rien, quelque chose à quoi on pourrait donner le nom de délocalisation de l'expérience humaine. Et je ne suis pas sûr que la philosophie, dans sa tradition la plus éminente, soit disposée à penser ça et nous dispose à penser ça. Le problème, c'est que nous sommes concernés, nous pratiquons constamment ça, à quoi pour le moment donc je ne donne pas de nom particulier. Et donc il y a un décalage entre ce que nous sommes capables de penser ou préparés à penser par l'histoire de la philosophie et ce que des techniques désormais extrêmement présentes dans notre monde nous font vivre. Et c'est ce décalage-là qui m'a conduit dans un livre que j'avais fait il y a quelques années qui s'appelle « Du commun » à proposer cette formule pour dire finalement ce qui structure notre expérience du monde aujourd'hui, ça n'est pas la petite phrase « ici et maintenant » qui, lorsqu'on la met au passé, devient « là-bas autrefois » et qui va structurer par exemple des récits « il était une fois hein, »,« il était une fois là-bas ». Donc, toute cette façon d'organiser la description, la pensée de l'expérience humaine est aujourd'hui, je crois, déplacée par les techniques avec lesquelles, de fait, nous vivons. Et ici et là est une façon de substituer à cette base, ici et maintenant, une proposition que je pourrais qualifier à la fois de philosophique et à la fois d'actualité. Alors, je me souviens que Annie Agopian avait retenu cette petite formule que j'avais mise en place et il en est résulté donc quelques temps plus tard ma présence ce soir et donc 3 conférences que je vous propose. Alors le cœur de l'explication de cette ici et là, de cette petite formule, je crois que je la ferai la prochaine fois. Mon propos ce soir était de préparer finalement cette explication, cette justification et d'en justifier les enjeux. Je n'aurais pas pu faire ces propositions sans une lecture que je qualifierais à la fois d'assidue et de très particulière de Walter Benjamin. Et je voudrais donc articuler, si vous voulez, mes réflexions en fait d'une certaine manière en vous proposant non pas une présentation directe de Walter Benjamin mais une interprétation de son travail. Alors, je vous ai préparé pour ce soir un petit raisonnement en 5 points. Voilà. Alors voici le premier. Voilà. Je pense toujours que il y a des strates de raisonnement hein, qui vont se mettre en place et que c'est l'ensemble qui finit, excusez-moi, qui finit par être intéressant. Je vais vous couper mon portable. Voilà, alors premier point. On peut caractériser Walter Benjamin par le fait que la plupart de ses textes, en tout cas les textes sur lesquels beaucoup aujourd'hui reviennent, que beaucoup aujourd'hui lisent et commentent, sont des textes des années 30, Et donc, on peut dire dans un premier temps que Walter Benjamin apparaît finalement comme un penseur des années 30, qui a beaucoup médité sur ce que j'appellerais l'avant-guerre, les possibilités de l'avant-guerre. Il a vu venir, en tout cas, la violence, le déchaînement de la violence. Et on peut le caractériser comme étant un penseur des années 30. Je vous propose de nous décaler par rapport à cette idée-là. D'abord parce que je fais l'hypothèse que tout ce qui s'est passé à ce moment-là, dans les années 30, n'a pas été véritablement ou complètement relevé. Je pense que nous n'avons pas relevé, nous n'avons pas fait la relève, nous n'avons pas fait le relevé de ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est passé dans les années 30. Je voudrais insister un tout petit peu sur ce mot, hein, relevé. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire dresser la carte, hein, faire un relevé, faire un inventaire, représenter, etc. Et puis ça veut dire aussi, dans un sens plus philosophique, parce que c'était une traduction qui était proposée par Jacques Derrida pour traduire un concept central de la philosophie de Hegel, le mot Aufhebung, qui joue un rôle très très important dans la logique de pensée, ce qu'on appelait la dialectique. Donc Derrida avait proposé ce terme de relève, hein, pour expliquer que, des phénomènes se présentent, et puis les pensées, dans une certaine mesure, c'est les relever, c'est-à-dire c'est leur donner... d'abord la dignité d'être des phénomènes de pensée, et puis c'est peut-être aussi permettre par là de, le cas échéant, nous en sortir, hein, si justement ces événements ne sont pas spontanément liés à notre bonheur ici. Alors, je pense que ce qui s'est passé dans les années 30, nous n'avons pas relevé, nous n'en sommes pas quittes. Et il y a encore pas si longtemps, un philosophe qui s'appelait Gérard Granel, qui est aujourd'hui décédé, avait écrit pour la revue Esprit un article, je crois que cet article date du courant des années 90, « Les années 30 sont devant nous ». Les années 30 sont devant nous, ce qui veut dire évidemment qu'après les années 30, il y a les années 40. Donc revenir sur cette période n'est pas pour nous, à mon avis, aujourd'hui indifférent. Nous n'en sommes pas quittes. En même temps, nous ne sommes pas, c'est le moins qu'on puisse dire, tout à fait dans la même phase historique. Mais pour qualifier les singularités de la période dans laquelle nous nous trouvons, hein, ces risques propres, disons, hein, est-ce que ce sont les mêmes risques que dans les années 30 ou est-ce que ce sont des risques propres? Pour nous déterminer par rapport à cette question-là et au fond pour mesurer, évaluer les risques propres de la période où nous nous trouvons, la phase, comme j'insiste bien sur ce mot, où nous nous trouvons, il faut justement faire ce travail de retour sur les années 30 et en particulier, je dirais, recueillir, hein, qui est une traduction possible du verbe lire, étymologiquement lire et recueillir se renvoient l'un à l'autre. Recueillir donc, par exemple, les textes de Walter Benjamin et la façon dont ils se situaient dans les années 30. Mais je propose pour faire ce travail, non pas un recueil ou une lecture pieuse, si j'ose dire, de Walter Benjamin. Je ne propose pas de faire de Benjamin, si vous voulez, un élément du panthéon ou du patrimoine intellectuel. Le travail que je fais sur lui, sur ses textes, on pourrait dire que c'est un travail de traduction. C'est-à-dire Benjamin lui-même a écrit sur la traduction un texte, je crois, extrêmement important, et je pense que nous avons besoin de ça, de traduire un certain nombre d'auteurs, c'est-à-dire de les faire résonner dans notre phase historique, dans la phase historique où nous nous trouvons. Donc je dis ça parce que, par hypothèse, la conférence étant enregistrée, d'une certaine manière, je préviens le public ici présent, mais celui qui est aussi là, sans être présent, je reviendrai là-dessus, bien sûr, la semaine prochaine, je préviens qu'il s'agit d'une lecture particulière de Benjamin. C'est mon premier point, si vous voulez, ce sont des éléments de traduction. Hein. Je fais passer, je fais transiter jusqu'à nous et jusqu'à la phase historique où nous nous trouvons une série de formules, si vous voulez, qui ont qui ont été élaborés dans leur première version, que je vais traduire, dans les années 30. C'est donc mon premier point. Voici le second. Walter Benjamin, je pense que vous, vous le savez d'une manière ou d'une autre, donc est l'auteur d'un texte fameux, pour lequel on peut d'ailleurs, dans le titre même, proposer plusieurs traductions, « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique », ou on peut dire aussi « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproduction mécanisée », à l'époque, pardon, de sa reproduction mécanisée. Benjamin, donc, existe pour nous aujourd'hui comme étant, est associé pour nous aujourd'hui d'une certaine manière à ce qu'il appelait époque, et pas simplement moment historique, et même ce qu'il appelait époque de la reproduction. Alors, je voudrais porter mon attention, votre attention, quelques instants sur cette expression-là, l'époque de la reproduction. Ce qui caractériserait les humains, mettons, du XXe siècle, et je vous propose de dire aussi nous, aujourd'hui, par hypothèse, les années 30 comme les années 2000, c'est la reproduction, l'époque de la reproduction, époque à laquelle, très souvent, on associe essentiellement la notion d'industrie. On dit que la source de notre époque, l'origine de notre époque, c'est l'industrie, l'industrialisation dans son progrès depuis le XIXe siècle. Nous serions les héritiers de l'époque industrielle. Or, Walter Benjamin a fait un autre choix, comme vous l'entendez dans le titre même de son ouvrage. Il n'a pas dit que nous étions caractérisés, que notre époque était caractérisée par l'industrie ou l'industrialisation, il a dit par la reproduction. Et surtout, il a illustré dans les premières pages de l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique ou à l'époque de sa reproduction mécanisée, il a illustré cette idée de reproduction tout autant et même plus, je dirais, que par l'industrie, il l'a illustré par la photographie. Il a donné à la photographie, à l'invention de la photographie, et je vais revenir sur cette expression, au fait, dit-il, qu'elle est venue faire autorité à la fois dans la perception, dans les formes de notre perception des choses, des êtres, du monde. Elle est venue faire autorité dans la perception, donc, elle est venue faire autorité également dans la culture. Elle s'est installée dans la culture et on pourrait dire, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'au fond, depuis que cette invention est parmi nous, depuis que les appareils de ce type-là, je vais généraliser, sont parmi nous, nous ne pouvons pas nous en passer pour percevoir le monde. La perception que nous avons du monde est marquée, formée par la photographie. Et je pense qu'on peut faire cette proposition qui consiste à dire que pour Walter Benjamin, d'un certain point de vue, ce qui nous caractérise, c'est au fond, je dirais de façon un tout petit peu exagérée, ça, la dimension photographique de notre être, de notre rapport au monde, ça nous caractérise plus, si j'ose dire, que finalement l'avancée industrielle, où les choses sont liées, ou en tout cas les choses sont liées, c'est-à-dire d'une certaine manière l'avancée industrielle se détermine elle-même, est déterminée elle-même comme ou par cette avancée du mode de la photographie dans notre relation au monde. Alors c'est le deuxième point, c'est un point paradoxal auquel je crois il est très difficile de faire vraiment attention, et ça nous demande un détour. C'est-à-dire finalement, si on veut saisir ce qui nous est arrivé depuis le XIXe siècle, il faut d'abord passer par cette histoire-là, l'histoire de la photographie parmi nous, le devenir photographique de notre sensibilité, disons. Il faut passer par là avant peut-être de peser, de prendre nos marques avec ce qu'on appelle l'industrialisation. C'est le deuxième point que je voulais dire très rapidement ce soir. Alors voici le troisième. Benjamin a donc pensé que ce que j'appellerais l'avancée, cette avancée dans l'art de faire et de présenter et même de diffuser des images qu'est la photographie est une avancée tout à fait essentielle et tout à fait déterminante. La photographie a touché à quelque chose d'essentiel qui est pour Walter Benjamin, traduit si j'ose dire par moi, à ma façon, la photographie, l'avancée de la photographie parmi nous a touché à quelque chose d'essentiel qui est, je dirais, la forme ou les formes de l'être humain au monde. Les formes, je vais revenir sur cette petite expression de l'être à, je vais essayer de commenter ça dans quelques secondes, c'est-à-dire en fait, je donne ça en général, les formes de la sensibilité, les formes de la spatio-temporalité, de l'espace et du temps, les formes de la réceptivité en général, et en conséquence, ayant touché aux formes de l'être A, la photographie a touché aussi, par incidence, aux possibilités de l'être avec, à la façon dont nous pouvons être au monde d'une part, les uns avec les autres d'autre part. Alors, je voudrais un tout petit peu commenter cette expression « être à », ne sachant pas exactement, comment dire, ne sachant pas a priori où situer, si vous voulez, le discours que je vous propose. Je pense que c'est peut-être intéressant de s'arrêter sur cette expression qui n'est pas de Benjamin, l'être à, c'est, je répète, une traduction que je propose. Qu'est-ce que ça veut dire être à? On peut dire peut-être que l'être humain, justement, est caractérisé par une forme d'être au monde, qui lui est par hypothèse propre, qu'il est le seul être à pouvoir, vivre, pratiquer, éprouver. Pour dire les choses très simplement, il y a d'autres êtres que les êtres humains. Il y a des êtres minéraux, il y a des êtres végétaux, il y a des êtres vivants ou animaux, animés, et puis il y a des êtres humains. On peut, dans une première approche de ces expressions, caractériser justement chacun de ces êtres par un mode de la sensibilité. Par exemple, on peut dire qu'un être minéral, c'est un être qui serait caractérisé par un degré zéro de la sensibilité. Un morceau de granit, c'est pas sensible. Ça n'est d'ailleurs peut-être à rien. Quelque type d'être qui n'est pas ouvert à autre chose qu'à ce qu'il est, on ne peut même pas dire à soi-même, il n'y a même pas de réflexivité, il n'y a pas d'ouverture. Après, on peut dire finalement les autres êtres que j'évoquais rapidement, les végétaux, les animaux et les humains, sont précisément marqués par le fait qu'ils s'entretiennent dans l'être, par le fait qu'ils ont un certain mode d'ouverture à ce qu'il y a, on va dire, dans leur milieu, auprès d'eux, dans leur environnement, qui lui-même peut être plus ou moins large. Donc il y a une façon d'être ouvert au monde, d'être présent à ce qu'il y a autour, auprès, qui est propre au végétal. Il y en a une autre qui est propre à l'animal, et là on commence évidemment dans le langage commun à toucher davantage, on reconnaîtra davantage ou plus immédiatement ou plus volontiers ou plus spontanément, disons, à l'animal, à l'être animal, une sensibilité, une forme de sensibilité, un certain rapport à l'espace et au temps, a fortiori donc pour l'être humain. L'être humain dispose donc d'une forme de sensibilité, d'une forme d'ouverture, d'une façon d'être au monde qui s'inscrit dans une épreuve, une façon d'éprouver, de sentir l'espace et le temps. Que, par exemple, la petite phrase traditionnelle, ici et maintenant, d'une certaine manière, formule. je suis être humain en tant que non seulement je suis localisé ici et maintenant, un jour quelque part, par des coordonnées spatio-temporelles, mais je le suis également dans le fait que cette localisation, je l'éprouve d'une manière particulière, qui est proprement humaine, et peut-être aussi, je peux dire, je l'échange, cette expérience, avec d'autres, par la façon dont je peux, par exemple, la relever, hein, pour revenir sur le verbe que j'utilisais tout à l'heure, dont je peux la relever dans du langage et dont je peux la relever dans une pensée. Donc, ce qui caractériserait l'être humain, c'est peut-être le fait d'avoir affaire, d'une part, à une sensibilité, c'est-à-dire à une ouverture au monde, à une forme d'épreuve de l'espace et du temps, une façon d'éprouver l'espace et le temps, et puis aussi la capacité d'articuler ou de relever cette expérience, cette épreuve de l'espace et du temps dans du langage et d'en faire le partage, d'en assurer le partage, ben, peut-être par le biais du langage, mais peut-être déjà à un niveau sensible, j'y reviendrai, avec ce que cet être pourrait appeler ses semblables, hein, d'avoir le sens des semblables et le sens du partage. Donc la thèse de Walter Benjamin, c'est que l'avancée de la photographie dans le monde n'est pas simplement une avancée technique, si vous voulez, c'en est une, bien sûr. C'est-à-dire, avant une certaine date, on dit en général 1839, c'est un peu complexe parce qu'on peut penser que l'invention de la photographie c'est elle-même répartie dans plusieurs endroits au 19e siècle, mais disons, on retient cette date 1839. Avant cette date-là, il n'y a pas à proprement parler techniquement de photographie, donc il y a là une avancée technique, quelque chose s'est avancé dans le monde que auparavant les humains ne connaissaient pas. Même s'ils y pensaient, ils ne connaissaient pas la technique qui permettait de fabriquer des images photographiques. Mais ce qui intéresse Walter Benjamin, c'est pas simplement cette avancée technique, c'est le fait que cette avancée technique, cette avancée dans les modes de faire des images, a touché aux formes mêmes de la sensibilité humaine, a touché aux formes mêmes de la réception, de l'épreuve du monde, et par conséquent, si vous acceptez les hypothèses que je formulais il y a quelques minutes, et par conséquent, elle ne pouvait pas ne pas toucher à la façon de partager le monde, à la façon d'être avec, à la façon d'être ensemble. Donc c'est ça qu'on peut dire, si on parle un tout petit peu plus savamment, de dire que l'invention de la photographie est pas seulement une invention technique, c'est aussi, au sens premier du terme, une sorte d'invention esthétique. Je renvoie au mot grec aesthésis, d'où vient esthétique, qu'on peut traduire justement par quelque chose qui serait entre sensation, sensibilité ou quelque chose de ce type-là. Donc pour Walter Benjamin, la photographie serait une invention esthétique, et au fond, voici la thèse qu'on peut décrypter. La première forme ou la condition, peut-être ça serait mieux de dire les choses comme ça, de constitution d'un monde commun, se trouve, se détermine dans les formes de la sensibilité et dans la façon dont ces formes sont mises en place, travaillées par des inventions techniques. Alors je crois qu'on peut, au-delà de Benjamin, au-delà de son intérêt particulier pour la photographie, faire transiter cette thèse, si vous voulez, sur d'autres techniques, hein, qui sont d'ailleurs plus ou moins apparentées à la photographie, qui sont postérieures à son invention, que moi je propose d'appeler les techniques ou les appareils d'enregistrement, hein, et puis décaler de proche en proche cette thèse-là, et de dire que toutes les inventions qui se sont depuis produites dans le domaine de la fabrication des images au sens large, étant entendu qu'il y a aussi des images sonores, hein, qu'il y a des représentations sonores, je ne sais pas si je garderai le terme de représentation par la suite, mais disons dans un premier temps, gardons-le. Donc toutes les inventions qui se produisent dans le domaine technique de la fabrication des images ne font pas rien à l'épreuve du monde, ne font pas rien à l'être au monde, et par voie de conséquence ne font pas rien à ce que d'autres appellent aujourd'hui le partage du sensible et les fondements sensibles, si vous voulez, de l'être avec. Voilà pour le troisième point. Voici maintenant pour le quatrième. Alors, il faudra sans doute que je revienne la prochaine fois en particulier sur la liaison de tous ces termes. Peut-être il faudra que je reformule, enfin en tout cas c'est mon intention, toutes ces expressions. Pour ce soir, si vous voulez, je m'en tiendrai à la conséquence suivante. L'enjeu, si on veut dire, qu'est-ce que ça nous a fait? La photographie, l'enjeu, c'est le caractère diffus. Je propose de nommer les choses ainsi. L'enjeu, c'est le caractère désormais diffus, depuis la photographie, de l'expérience des choses, de l'expérience des autres, de l'expérience du monde. Depuis le temps de la photographie, du point de vue de la photographie, hein, si on entend le depuis, hein, depuis la photographie, ça veut dire depuis que c'est inventé, mais aussi pour autant que ça continue à nous intéresser, pour autant que ça continue à nous venir, la photographie ou des expériences, des images qui sont produites à partir des appareils d'enregistrement, depuis cette époque-là, justement, et c'est pour ça que ça fait époque, la photographie, que c'est pas seulement une phase historique, hein. Pour revenir sur ces termes-là, peut-être que bien que la phase historique dans laquelle nous sommes ne soit pas exactement la phase historique dans laquelle se trouvait Benjamin les années 30, par hypothèse, nous pourrions poser que nous sommes néanmoins de la même époque et que lui-même déjà, dans les années 30, était de ce qu'il a appelé, ou de ce qu'on a appelé en le traduisant, l'époque de la reproduction, c'est-à-dire l'époque de la photographie. Alors je propose, si vous voulez, moi, de revenir sur ces termes-là. Ils sont sur des façons différentes de nommer la même chose. On peut dire époque de la photographie, on peut dire époque de la reproduction, ou c'est la traduction que je propose. Je disais tout à l'heure que j'allais vous proposer des traductions de Benjamin. On pourrait dire époque de l'expérience diffuse des choses. Alors pourquoi je dis l'expérience diffuse des choses parce que il y a une tendance qui est impliquée par l'usage qu'on fait volontiers de la notion de reproduction, c'est-à-dire que nous n'aurions plus jamais affaire à des originaux, tout est reproduit, tout existe en série, tout est reproductible, etc. Il n'y a plus de valeur d'origine des choses, tout existe en masse, on peut aussi dire ça comme ça. Mais dans cette expression, il y a peut-être quelque chose d'assez négatif ou d'assez pessimiste, comme si l'expérience, on va dire, des masses était, sous prétexte qu'elle est une expérience de masse, une expérience négative. Je pense qu'on peut s'arrêter quelques minutes sur cette affaire-là et, au fond, produire une critique de la notion de masse. Voilà. Il n'y a pas que des masses, si j'ose dire, massives. Il n'y a pas que des masses en masse dans lesquelles tous ceux qui composent la masse seraient non pas des semblables, mais des identiques, hein, et qui feraient que les vies de chaque élément de la masse seraient des vies identiques aux autres éléments de la masse. Il n'y a pas que la situation suivante. C'est pas forcément parce que nous... au fond, nous vivons avec des objets produits en masse et produits en série que, ipso facto, les expériences qui sont les nôtres sont des expériences sans intérêt. Voilà. Donc il faut chercher un terme qui, au fond, les caractériserait sans forcément être un terme a priori marqué, si vous voulez, par le négatif. Sans compter qu'il y a aussi, dans ce qu'on pourrait appeler une foule, il y a des foules alertes. Il y a des foules vives, il y a des foules dynamiques, il y a toutes sortes de foules et il y a peut-être toutes sortes de façons de vivre de façon alerte, de façon vive à l'époque de la reproduction. Alors c'est pour ça que je propose de dire que Ce qui caractérise foncièrement notre expérience aujourd'hui, ça n'est pas d'être une expérience de masse. C'est bien que ça veut dire dans une certaine mesure la même chose, mais dans un terme qui a une autre allure, c'est une expérience diffuse. Et ce qu'il nous faut comprendre, c'est la diffusion et le caractère diffus de l'expérience. Alors, je vais prendre un exemple sur lequel je reviendrai de façon plus détaillée, plus approfondie la prochaine fois. C'est extrêmement simple. Je ne vais pas prendre un exemple tout de suite emprunté à la photographie, mais à un autre appareil qui nous est extrêmement familier et que nous n'associons pas nécessairement immédiatement à une expérience de masse. C'est une expérience que nous associons plutôt au caractère d'être partagé. C'est l'expérience du téléphone. Quand je téléphone à quelqu'un, je partage avec quelqu'un une expérience diffuse. Voilà. Moi-même, je suis en même temps là où je me trouve en train de téléphoner et je suis en même temps, je ne sais pas comment dire ça, reporté, déplacé ailleurs que là où je me trouve par le fait de ma voix enregistrée et diffusée. Et la personne avec qui je parle partage avec moi évidemment cette expérience. Elle existe pour moi à la fois là et pas là. Elle est à la fois là déplacée elle-même, reportée elle-même dans mon oreille, si j'ose dire, j'entends sa voix, etc. Elle est diffuse pour moi comme je suis diffus pour elle. Or, cette expérience, on ne peut pas, d'une part, la réduire à une stricte opération de communication. Je ne téléphone pas seulement pour passer des messages à mes pareils. Je peux téléphoner pour des raisons qui sont liées, bien entendu, à l'amitié, à l'amour, à des expériences. Par exemple, il y a une façon de partager l'amitié et l'amour qui est propre, je dirais, au téléphone et au monde dans lequel le téléphone existe. Il y a une façon de faire entendre sa voix, il y a une façon d'être sensible à la voix, qui est une expérience propre au téléphone, que ceux d'avant, nous, finalement, n'avaient pas. J'insiste beaucoup pour dire que cette expérience diffuse, donc, n'est pas a priori une expérience malheureuse. Cette expérience diffuse, elle peut être liée à des bonheurs qu'on pourrait qualifier de jusque-là inédits. Alors, la question, évidemment, est de savoir dans quelle mesure ce que je viens de dire à propos d'un exemple est généralisable. Et donc, il faudra qu'on entre un petit peu plus peut-être dans le détail, et peut-être plutôt la prochaine fois ou tout à l'heure en discutant si vous le souhaitez, mais il faudrait entrer dans les analyses pour voir ce qu'il en est, appareil d'enregistrement après appareil d'enregistrement. Qu'est-ce qui se passe dans l'ordre de la diffusion avec la photographie? Qu'est-ce qui se passe dans l'ordre de la diffusion du diffus avec le cinéma? Qu'est-ce qui se passe dans l'ordre de la diffusion du diffus avec la vidéo et la télévision? Etc. etc. Et évidemment, dans la phase historique où nous sommes, on ne peut pas ne pas évoquer, on en parlait tout à l'heure avec Annie Ogopian d'un autre point de vue, l'expérience de l'Internet et du Web, qui est une autre façon d'être dans la diffusion, d'être des humains dans la diffusion. Peut-être cette analyse-là, si vous voulez, je pourrais la détailler davantage, si vous en êtes d'accord, la prochaine fois. Ou tout à l'heure, si vous voulez quand même que j'entre un peu dans ce sujet dès ce soir. Sur le quatrième point de mon analyse de ce soir, en fait, je voulais attirer l'attention sur ce qui fait que ça fait époque, au sens de Benjamin. Eh bien, ce qui fait que ça fait époque, c'est que, autre manière de le dire, ça fait désormais autorité, comme il dit lui-même. C'est un mot que je prends à un passage de l'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée. Ça fait donc autorité, comme il dit, dans la culture. Voilà. Ça fait autorité parmi nous. On peut dire, au fond, c'est pas seulement que nous ne pouvons plus nous en passer, comme si nous étions dépendants de ça, comme si c'était quelque chose comme une drogue, que ça se serait imposé aux êtres humains, d'une certaine manière, malgré eux, et ils n'auraient plus qu'à s'y habituer, qu'à s'y plier, etc. Le Benjamin dit quelque chose d'un peu plus, je dirais, radical, et difficile d'ailleurs à penser, ça fait, c'est venu faire autorité parmi nous. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, c'est ce qui, on peut dire ça comme ça, c'est ce qui autorise notre expérience du monde, c'est ce qui la constitue, c'est ce qui la structure. On peut dire aussi, en forçant dans un premier temps un tout petit peu l'expression, que c'est là quelque chose que les humains ont préféré. Voilà. Nous préférons, c'est pour ça que ça fait époque, hein, sinon ça serait simplement justement une phase historique. Hein. Si ça fait époque, et si le mot époque est un mot fort, époque de la reproduction, et il faut comprendre que nous avons préféré, au fond, cette épreuve-là du monde, hein, nous la préférons, nous la cultivons. On peut dire, ça ne s'est pas installé dans la culture malgré nous, on peut entendre culture avec quelque chose, un sens actif, nous cultivons l'expérience diffuse. Hein. Et donc, dans une certaine mesure, je vous propose, au moins pour discuter ce soir, de dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Nous aimons ça. Nous aimons ça et nous préférons cette façon d'être. On peut dire aussi, autre exemple, pour revenir au sujet de la photographie, depuis que la photographie existe techniquement parmi nous, nous préférons le mode photographique du voir au mode non photographique du voir. Nous le préférons. Alors, par exemple, et pas seulement que nous avons appris à voir photographiquement, mais nous entretenons avec les objets du monde un rapport qui est essentiellement photographique, même quand nous n'avons pas d'appareil photographique sous la main, sous les mains ou dans les yeux. Par exemple, une image de quelque chose qui serait à vue d'œil, si j'ose dire, et une image de quelque chose qui est à vue d'appareil photographique, si j'ose dire. Par exemple, ce que peut faire un appareil photographique, c'est un gros plan, hein, un détail, un fragment de quelque chose. Eh bien, nous préférons le fragment, le détail, le gros plan à la vue d'œil. Hein. Bon, l'exemple, c'est désormais un monument historique pour nous. C'est pas ce que nous voyons sur place, en y allant, en y étant. Un monument historique, c'est le détail de ce monument, c'est le monument fragmenté, mis en gros plan par l'appareil photographique. Et cette expérience-là anticipe désormais, elle est plus radicale, elle fait autorité, que l'expérience pour laquelle, je ne dis pas l'expérience courante, justement, il n'y a d'expérience désormais courante que appareillée. Donc il faut dire, et c'est une expérience qui fait autorité et qui a plus de valeur pour nous, nous la cultivons davantage. Là aussi, pour parler un petit peu vite, nous y trouvons plus de vérité, hein, nous trouvons plus de vérité dans l'expérience photographique, dans le cadrage du réel lié à la photographie, le gros plan, le fragment, enfin tout ce qu'a apporté cet appareil. Notre sensibilité est faite dans sa forme première, désormais, aux données des appareils d'enregistrement. Nous éprouvons le monde selon des formes esthétiques qui sont des formes appareillées. Et j'insiste pour dire, il y a là, quelque part, comme une préférence qui, qu'on le veuille ou non, vient de nous, nous habite. Alors peut-être on discutera autour des enjeux de cette affaire. Je voudrais, dans un cinquième point et rapidement, vous le proposer en quelques mots, dans un langage enfin que j'espère assez à la fois assez simple et assez marquant. Moi, ce qui m'intéresse dans Walter Benjamin, ce pourquoi, par exemple, j'en parle souvent dans les cours que je fais à l'université, c'est parce que, contrairement à ce que beaucoup disent, je ne vois pas dans cet homme, dans cet écrivain et dans ce penseur, un penseur pessimiste et un penseur nostalgique. Voilà. Je ne crois pas que Benjamin était, en tant que penseur, fondamentalement nostalgique et pessimiste. C'est-à-dire que ce qui nous a appris à penser, ou ce qui nous permet de penser, c'est précisément l'accueil, l'acceptation de ce qui est désormais notre sort, à savoir les fondements appareillés hein, de notre sensibilité et de notre expérience foncière du monde. Donc l'enjeu de la pensée de Benjamin, c'est de nous donner les éléments pour penser ce qu'on pourrait appeler au sens propre une existence humaine à partir de ces appareils, une existence humaine qui tient compte, qui soit une existence, qui ne soit pas seulement une vie. Hein, nous ne sommes pas voués à seulement vivre, nous sommes voués à exister. Et donc il nous faut penser, et je crois que Benjamin nous en donne d'une certaine manière les moyens, il nous faut essayer de penser les conditions d'une existence humaine, d'une véritable, d'une authentique existence humaine, avec la présence désormais, comment dire, impossible à éliminer, parce qu'au fond, nous ne le voudrions pas, hein, penser une existence humaine avec ces appareils-là. Sans doute, y a-t-il dans toute technique et dans tout appareil une puissance qu'on pourrait peut-être dire de conditionnement, c'est-à-dire on ne fait pas ce qu'on veut avec un appareil, on ne fait pas ce qu'on veut avec un appareil photographique, on ne fait pas ce qu'on veut avec, avec une disposition technique. Elle détient en elle-même des définitions, des formatages, on pourrait aussi dire ça comme ça. On ne fait pas ce qu'on veut, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une condition. Exister, c'est pas simplement être conditionné ou se laisser conditionner, c'est pas simplement, comme disait le même Gérard Granel que j'évoquais tout à l'heure, l'auteur de cet article, les années 30 sont devant nous, exister, ça n'est pas subsister, hein, ça n'est pas subsister, c'est-à-dire, si on prend l'étymologie du mot, se tenir dessous. Exister, c'est précisément élever, relever, si vous voulez, les conditions de la subsistance. Alors, l'enjeu est là. Je crois que l'enjeu est là. L'enjeu, c'est de définir quelles sont les possibilités de l'existence à l'époque de la photographie ou, pour généraliser, à l'époque des appareils d'enregistrement ou à l'époque de l'expérience diffuse. Qu'est-ce que ça veut dire pour des êtres humains d'exister quand la diffusion, quand le diffus est partout ? Est-ce que ça veut dire exister quand le diffus est partout, revenir à des conditions d'existence et à des conditions de vie qui sont d'avant ? La réponse est non. La réponse de Benjamin est non. La réponse de Benjamin, c'est de dire que les conditions d'existence, il faut les sortir des conditions techniques dans lesquelles nous nous trouvons et que nous avons adoptées, que nous cultivons, que nous préférons. Il faut donc sortir les conditions d'une existence contemporaine et penser que les conditions de cette existence contemporaine ne sont en aucune manière dans la régression sur des modes d'existence qui ne sont plus de notre temps, qui ne vont plus avec les techniques de notre temps. Donc on pourrait dire, peut-être je m'arrêterai là-dessus pour ce soir et pour que nous ayons le temps de discuter, que nous ne pouvons pas vivre à l'époque de la reproduction sans les appareils photographiques et sans les appareils issus de cette génération-là d'invention, ce que j'appelle les appareils d'enregistrement ou les appareils de diffusion, ça revient au même finalement. Hein. Nous ne pouvons pas vivre sans ces appareils, nous ne pouvons pas véritablement concevoir une vie sans eux, mais l'enjeu, ce serait peut-être ça l'existence, c'est que nous n'en soyons pas de ces appareils seulement les servants, hein, les esclaves, etc. Disons les servants, je pense que ce serait mieux de garder ce mot-là, ou, autre façon de le traduire, les consommateurs. Hein. Je crois que, si vous voulez, pour aller très vite, un élément possible du débat, la société qui s'avance est une société dans laquelle nous pouvons soit être au service des objets qui produisent parmi nous, par exemple, des images, hein, des consommateurs, Ou bien nous pouvons, et c'est vers ça qu'il faudrait s'orienter, dont il faudrait chercher les conditions, être, je dirais, je vais jouer sur un mot une dernière fois, j'allais dire des réalisateurs, plutôt que des consommateurs, des réalisateurs, plutôt que des servants des praticiens. Voilà. Alors, j'ai un tout petit jeu sur le langage. Qu'est-ce que ça veut dire réaliser, hein? En français aujourd'hui, on peut entendre dans ce verbe-là deux choses. Ce qu'il voulait dire en français avant d'être contaminé par le sens anglais. Donc réaliser, d'abord, ça veut dire, il y a le mot latin res, réaliser, qu'on entend dans le verbe. Ça veut dire devenir quelque chose, hein, en faire quelque chose, voilà, en faire quelque chose. Donc ça, c'est-à-dire réaliser quelque chose. C'est presque un pléonasme, hein, réaliser. Et réaliser, c'est faire quelque chose. Donc nous avons à faire quelque chose des inventions qui nous environnent et qui forment notre être au monde. Mais réaliser, ça veut dire aussi, au sens anglais, to realize, ça veut dire se rendre compte. Se rendre compte, s'en rendre compte, je dirais apercevoir, réaliser, vous voyez, comme dire, on peut dire en français, tu réalises ce que tu viens de dire, tu te rends compte. Hein. Alors peut-être les conditions d'existence de l'humanité contemporaine, elle est liée au fait de réaliser les appareils de l'époque. Elle est liée au fait de réaliser les appareils d'enregistrement dans les deux sens que je viens de vous proposer de ce verbe. C'est-à-dire que nous rendions compte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, et que nous pratiquions ces appareils, que nous en fassions, quelque chose. Alors peut-être on pourrait dire, pour arrêter la partie, singulière de notre rencontre et passer éventuellement à la discussion, moi je dirais assez volontiers ça en m'appuyant, là encore, sur une lecture traductrice, enfin, de Walter Benjamin, que le premier passage de notre rapport aux appareils, c'est que nous nous rendions compte qu'il soit fait parmi nous des propositions pratiques, des réalisations au sens pratique, telles que ceux d'entre nous qui ne sont pas d'abord des praticiens de ces appareils puissent prendre conscience de leur caractère, de leur présence, de leur caractère structurant. Voilà. Alors, c'est un enjeu. Je ne suis pas sûr que les institutions dans lesquelles s'emploient de façon dominante les appareils photographiques, les appareils cinématographiques, etc., enfin toute cette génération d'appareils, je suis pas sûr que ces institutions réalisent avec ces appareils des choses qui soient telles que nous puissions être de façon dominée, hein, à la fois de façon dominante et de façon dominée, des servants ou des consommateurs. Et il y a là un enjeu qui est un enjeu qu'on pourrait peut-être qualifier, si vous voulez, d'artistique ou d'esthétique. Nous attendons pour exister, ou nous avons besoin pour exister, que paraissent des réalisations qu'on pourrait dire déconditionnantes, des réalisations avec lesquelles nous entretenions un rapport qui ne soit pas un rapport de consommation, mais qui soit un rapport, je ne sais pas, le mot que j'ai en tête tout de suite, c'est un rapport d'émancipation. Voilà. Et nous attendons que ces réalisations aient lieu, nous avons besoin que ces réalisations aient lieu pour que nos vies aujourd'hui, que nos conditions de vie d'aujourd'hui, qui sont des vies appareillées, puissent devenir des existences authentiques. Voilà. Pour être très rapide. Ouais.
Il y a une question que je pense qu'on aurait grande envie de vous poser. Avant d'arriver à ces appareils enregistreurs dans la photographie, qu'est-ce qui, à votre avis, sur vos sentiments, structurer notre perception du monde?
La question s'arrête là.
Oui.
On pourrait dire des objets originaux. Voilà. On pourrait dire de toute façon des objets et des situations originales. voilà, dans laquelle il n'y a pas ce que j'appelais tout à l'heure ni l'expérience du diffus ni la diffusion. Voilà. Donc des objets, alors ça évidemment ça anticipe peut-être dans une certaine mesure sur ce que je pourrais essayer de mieux fonder la prochaine fois. Donc des objets qui comment dire ça qui appartiennent au registre d'une expérience déterminée par ici et maintenant. Alors, je vais prendre un exemple. On peut dire, qu'est-ce qui fait la différence entre un tableau de peinture et une image photographique? Voilà. Ben, c'est peut-être la mise en jeu d'un espace qui n'est pas de même nature dans l'un et l'autre cas. Dans le tableau de peinture, il y a une espèce de continuité entre ce qui est proposé au regard par un artifice, l'art pictural, et ce qui est proposé au regard dans ce qu'on pourrait appeler l'expérience, comment appeler cette expérience-là, expérience, elle n'est pas naturelle, enfin, commune, si vous voulez, quelque chose de ce type-là. C'est le même rapport à l'espace et au temps qui est impliqué dans les deux cas. Alors, je vais essayer de prendre un exemple. Quand je regarde un tableau en perspective, il y a un là-bas qui m'est proposé imaginairement par le tableau, hein, là-bas. Voilà. Ce là-bas, je l'imagine dans une sorte de liaison entre ici où je me trouve et là-bas où je pourrais être tout à l'heure si, par hypothèse, je me promenais dans le tableau en allant vers le fond. Hein. Il y a une coordination de l'expérience spatiale et de l'expérience temporelle qui au fond est la même, je dirais à l'imagination près, lorsque je regarde le tableau et lorsque je regarde un espace qui n'est pas un espace peint. Voilà. Avec la photographie, quelque chose change. D'abord parce que, ça j'y reviendrai la prochaine fois de façon plus détaillée, difficilement, je pense, me justifier ce soir. Et quelque chose change avec la photographie parce que, comment dire, l'expérience photographique est une expérience qui est marquée par la coupure avec la spatio-temporalité dont je viens d'essayer de vous donner très très rapidement la description. Elle l'est deux fois d'ailleurs. Elle l'est au moment de la prise de vue, au moment de la fabrication de l'image, et elle l'est au moment de la réception de l'image. Dans la réception de l'image, ce qui est montré sur une image photographique, ça n'est pas un espace dans lequel la profondeur m'est donnée, si vous voulez, comme dans le tableau de peinture, pour des raisons qui sont liées à la technique de l'appareil lui-même, au fait qu'il y a un objectif, qu'il y a une focale, etc. L'espace, en fait, il est strié. Il y a des couches. L'espace photographique, c'est un espace par couche. Ce n'est pas un espace de profondeur. Voilà. Alors ça, c'est déjà une différence. Évidemment, tout ça, il faudrait le concrétiser, il faudrait le montrer, il faudrait le justifier en détail. Enfin, je vous fais cette proposition, hein, donc au niveau de la réception. Au niveau de la prise de vue, c'est la même chose. Ça, j'y reviendrai la prochaine fois. Lorsqu'on prend une photographie, en réalité, on coupe avec l'expérience, si vous voulez, usuelle, mettons traditionnelle. Voilà. Prendre une photographie, c'est abandonner pendant un laps de temps très court aujourd'hui, qui était beaucoup plus long au XIXe siècle, aujourd'hui devenu très court, mais c'est quand même un laps de temps. Mettons, je sais pas moi, un trentième de seconde, un soixantième de seconde, un 125e de seconde. On abandonne à un appareil le soin de travailler et de faire une image. Il n'y a pas de continuité, autrement dit, quoi qu'on dise, il n'y a pas de continuité entre le regard du photographe et la photographie qui est faite par l'appareil, à cause de ce laps de temps. C'est un laps du temps humain, si vous voulez. Pendant un très court temps, je pense que le mot laps de temps, enfin moi j'insiste beaucoup dans mes propres travaux sur ce terme-là, un laps de temps. Il y a un moment où le temps avec lequel la photographie se fait n'est pas le temps d'une temporalité humaine ayant des intentions. Je pense qu'un photographe, c'est quelqu'un qui sait abandonner à un moment son intention à un appareil. Et l'image qui est faite est une image qui est coupée de l'intention du photographe. Mais c'est vrai aussi pour moi qui suis pris en photo. Être pris en photo, c'est de toute façon être destiné à ne pas se retrouver sur l'image. Voilà. Autrement dit, la relation qu'il y avait entre moi et le photographe au moment de la prise de vue, elle est coupée par la prise de vue elle-même. C'est une image d'une toute autre nature que l'image picturale. Je pense que la même chose avec le cinéma. Paradoxalement, je ne pense pas que la photographie et le cinéma soient des techniques documentaires. Voilà. Radicalement, la photographie et le cinéma ne sont pas des techniques documentaires. Et le grand problème, la grande illusion, c'est de penser qu'ils le sont.
Qu'est-ce que ça veut dire que ça fait une belle photo ? Qu'est-ce que vous donnez comme contenu à documentaire ?
Alors, bon, tous les mots mériteraient évidemment.
Mais tu vois, dans le cas, ça n'est pas documentaire, je vois pas ce que c'est. Moi, je comprends pas.
Ça produit quelque chose qui n'a pas eu lieu. Paradoxalement. Hein. Ça produit quelque chose qui n'a pas eu lieu. Ça produit une image, et cette image, elle nous mène à la vue, au visible, au sensible, quelque chose qui n'a pas eu lieu, ou pour lequel, si vous voulez, comment dire, les témoins de la scène ne sont pas sur l'image. Le photographe n'est pas sur l'image, l'intention du photographe n'est pas traduite dans l'image, et le sujet photographié n'est pas, ne se retrouve pas sur l'image. Vous le savez bien, quand vous regardez vous-même en photographie, il y a toujours quelque chose d'assez étrange. Je pense que c'est une façon de traduire dans l'expérience l'espèce d'analyse, j'allais dire ontologique, que j'essaye de vous proposer.
Il y a un point que j'ai pas bien compris, ou alors que je contesterais volontiers, c'est parce que vous avez dit que dans le point 4, nous préférons cette épreuve du monde qui est la photographie à la vision directe. Par exemple, si on vient vous écouter soir en direct, alors qu'on a la possibilité de réécouter tranquillement chez nous l'enregistrement qui sera fait, il est vrai qu'il n'y aura pas de photo, c'est la preuve qu'on ne préfère pas forcément la reproduction à l'original. Et pourquoi est-ce que le tourisme a lieu ? Pourquoi est-ce que les gens vont voir les monuments alors qu'ils pourraient regarder des albums de photos ? C'est pas le signe de préférence que la photo soit omniprésente et qu'on voit les hordes de touristes ne jeter qu'à peine un coup d'œil au monument immédiatement le mettre en boîte, c'est vrai, mais de là à dire qu'on préfère, dans l'idée de préférence il y a une sorte de détermination consciente que je mets mal en relation avec ce que vous avez, la mise en garde que vous avez faite à la fin sur le risque qu'il y a de devenir serf ou servant de ces appareils. Donc j'aimerais que vous reveniez sur cette notion de préférence.
Oui, peut-être que le mot préférence est un mot aussi qu'il aurait fallu lâcher, si j'ose dire, avec plus de précautions que je ne l'ai fait. Mais je l'ai fait un peu pour provoquer la discussion. Oui.
La différence, c'est qu'on n'est pas aussi innocent qu'avant, on est contaminé, je dirais, par le temps des appareils.
Oui.
Je pense pas par contamination, en termes de préférence.
Enfin, j'allais dire, mais bon. C'est-à-dire qu'il faudrait distinguer entre dans français et en anglais, si nous n'en avions pas voulu, ou bien si on n'en voulait pas. Voilà, entre nous et on, il y a une différence, parce que, on peut dire, on, c'est assez indistinct et assez indéfini, assez difficile à définir positivement, hein, si vous voulez. Bon. Mais enfin, l'idée est quand même celle-ci. Moi, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à l'admettre, admettre que je la lisais quand je lisais ou quand je commentais Benjamin pour mes élèves ou mes étudiants, mais il a bien fallu que je me rende à l'évidence, c'était dans le texte. Voilà, cette phrase où il y a ça a fait autorité dans la perception, dans la culture, enfin si vous voulez, si on traduit. Alors on pourrait dire, mais le fait est que la photographie s'est installée. Voilà. Le fait est que la photographie s'est installée, le fait est que, comme dira Baudelaire en 1859, elle s'est répandue, c'est une citation de Baudelaire, elle s'est répandue parmi le peuple, et comment ? Voilà. Alors que, d'une certaine manière, la culture, sous sa forme dominante, n'en voulait pas, et dans une certaine mesure, n'en veut pas. Enfin, en tout cas, et pourtant le fait est. Le fait est que ça s'est répandu, on pourrait dire, dans les mœurs. Voilà. Alors c'est ça que je pense veut dire l'expression « ça fait autorité dans la culture » que je me suis permis de traduire un peu rudement par « elle a été préférée ». Enfin, disons pas par qui, elle a été préférée au point que, et même si c'est au fond illusoire, comme je le disais dans ma réponse précédente, et finalement, elle atteste pour nous de notre présence au monde. Je traduirais ça comme ça, mais on ne peut pas concevoir un monde sans photographie. Il y a quelque chose de, alors il faut faire avec ce fait là comment se fait-il que il y a eu un débat, enfin qui est un débat presque interminable, qui consiste à s'être demandé si la photographie était de l'art. Voilà. Benjamin dit on aurait mieux fait, on ferait mieux de renverser la phrase et se demander qu'est-ce que c'est que l'art en tant que photographie. Voilà. Non pas si la photographie est de l'art, mais qu'est-ce que ça fait à l'art que la photographie soit devenue la forme majeure, on pourrait dire, de la fabrication d'images aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, alors après, je sais qu'on peut décaler cette question, je répète, avec le cinéma et d'autres modes, hein, mais disons, la forme majeure de fabrication d'images est là, quelque part, quoique nous admettions quand nous essayons d'élaborer nos valeurs. Alors c'est ça la difficulté, c'est-à-dire que peut-être qu'entre les valeurs élaborées, qu'on pourrait peut-être aussi appeler les valeurs dominantes et les valeurs réelles, du monde de l'époque de la photographie, il y a une discordance. Discordance dans laquelle peut-être d'une certaine manière se situe votre question.
Je me suis assisté un petit peu. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette idée que l'œil se promène dans le tableau et que vous avez mise?
Oui.
Je vois très bien, des scènes de l'histoire sainte, vous avez la Vierge de Saint-Joseph qui fuit finalement. Et de fait, c'est vrai, là, au fur et à mesure que tandis que vous regardez le tableau, suivez le mouvement des personnages et l'espace se creuse.
Peut-être un tableau qui serait, disons, inaugural du monde de la perspective, ça serait, sauf erreur de ma part, la Vierge au chancelier Rollin, où un art extrêmement raffiné de la perspective, puisqu'en fait il y a plusieurs scènes dans le tableau, hein. Il y a je ne sais plus quel assassinat qui est visible dans le fond du tableau, si on regarde à la loupe, etc. Donc il y a une série d'espaces qui se gagnent les uns par l'intermédiaire des autres. Alors cet espace là c'est un espace de la profondeur et c'est un espace continu, hein. C'est-à-dire il y a le plan, il y a moi, et par le jeu de la perspective, de l'art de la perspective, il y a le plan dans lequel se trouve le chancelier Rollin, et puis la fenêtre ouverte au fond, derrière laquelle il y a une scène, et ainsi de suite à l'infini, en continuité. Voilà. Et le sens du regard, ce que dit très bien l'étymologie du mot perspective, le per latin, la traversée, le à travers, en profondeur, vers là-bas. Alors là-bas, c'est toujours, excusez-moi pour cette façon de dire les choses, mais là-bas, c'est un prochain ici si j'y vais. Hein, si j'y vais là-bas, là-bas deviendra ici tout à l'heure. Hein, donc là-bas, c'est un ici tout à l'heure. Le tout étant dans une continuité. Bon. Pour aller très très vite, dans un premier moment de réflexion et de discussion, je dirais que ce qui caractérise la photographie, ce n'est pas la perspective, c'est l'aspect. En prenant le mot, il y a la même racine, hein, il y a spect, le species latin, le spectacle, etc. En fait, on peut aussi traduire ça par forme. C'est quelque chose qui concerne le regard, le visible, le perceptible. Mais sauf que ce soit, au lieu que ce soit le mouvement perspective, c'est ad spectum. Ça saute aux yeux. Et le geste de la main que je fais, c'est là-bas, je vais l'indiquer comme ça. Et la photographie, c'est quelque chose, je dirais, qui est doté d'une évidence. Ça sort et ça vous vient au regard. C'est une autre spatialité. Voilà. Alors, il se peut, peut-être il faudra que j'en reparle ultérieurement, il se peut que ce que j'appellerais la puissance de cet appareil, sa spécificité, hein, sa puissance propre, ce qui fait que, justement, il engendre pour nous une expérience du monde qui fait époque, enfin qui est inédite, il se peut que cette capacité-là de l'appareil d'engendrer finalement, de participer, de fournir les conditions d'arriver d'un monde, d'un être au monde nouveau, il se peut que justement cette puissance-là, elle soit, pas que je pourrais dire ça, niée, refoulée, non relevée, elle ne soit pas relevée. Et si elle n'est pas relevée, à ce moment-là, l'appareil va être employé à contre-emploi et va délivrer des images qui ne sont photographiques qu'en apparence, mais qui sont extrêmement rassurantes, puisqu'elles vont nous renvoyer à des habitudes culturelles pour lesquelles nous avons tous les instruments d'analyse, tous les instruments d'inscription dans la culture, validés de façon dominante, etc. etc. C'est le problème des inventions, et en particulier dans le domaine de l'image, hein, que, en tout cas, ça aura été l'histoire de la photographie, que cette capacité a, je dirais, à nous sauter aux yeux.
Ce qui vient tout à l'esprit, c'est le voir autrement, par cette fragmentation dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à représenter cette ligne de fuite, hein, là-bas, si j'y vais, j'y suis, c'est je suis arrêté par un fragment qui peut être multiplié dans sa diffusion, d'une part, et qui peut être aussi multiple dans sa représentation. Une espèce de double mouvement qu'on n'a peut-être pas, on n'avait peut-être pas avant, on n'avait peut-être pas les moyens d'expérimenter avant. Et c'est vrai que le fait, on a préféré, l'histoire de ma préférée, c'est que c'est une possibilité nouvelle de voir qu'on ne peut plus s'en passer quelque part. Et c'est vrai que tout à l'heure, je faisais le geste de cadrer pour regarder. Si je n'ai pas d'appareil photo, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est toujours espèce de recadrer, tiens, ça a fait une belle photo là, ou ça, j'aurais bien voulu avoir un zoom pour ça. Et c'est vrai que c'est dans le langage, dans la façon de vouloir appréhender les choses, dans son détail, dans un cadre précis, qui n'est plus dans le souhait de représenter ce qu'on... Peut-être qu'on n'avait pas les moyens non plus avant, dans une espèce de perspective qui souhaite présenter une totalité. Donc, ça me renvoie à ces genres de totalité, de fragments et de multitudes de façons de percevoir les choses.
Je suis tout à fait d'accord sur le fait que le principe, disons, de l'art de la perspective, c'est effectivement de produire à l'intérieur d'un cadre une totalité. Hein, ou en tout cas l'idée ou l'image d'une totalité. Hein, je dirais que par essence, la photographie, c'est pas ça. La photographie, ce qui la caractérise fondamentalement, c'est des coupures. Coupure de l'espace par le cadre, par le fait que ça pose un cadre et que finalement cadrer, c'est peut-être autant d'ailleurs repérer ce qu'on va pas mettre dans l'image, c'est-à-dire éliminer, hein, que choisir, que élire. Et puis bon, il y a cette coupure dont je parlais tout à l'heure, qui est celle du temps, le temps vécu du photographe et du sujet pris en photo est un temps rompu par la facture, la fabrique de l'image. Et ce qui, peut-être je peux s'y ajouter, j'y pensais en écoutant, mais ça rejoint une réponse que j'aurais peut-être dû faire tout à l'heure à une des questions que vous m'avez posées, ou une meilleure réponse que j'aurais pu faire. Le paradoxe, c'est que le caractère, disons, très particulier de l'image de type photographique, ou des enregistrements, à mon avis, d'une manière générale, c'est qu'évidemment, ils ne nous rendent pas impossible l'expérience d'avant. Je peux toujours me promener dans l'espace comme avant. Je peux toujours. Je n'ai pas perdu, moi l'humain, la capacité de la profondeur, de la perspective, etc. Mais je vis avec une épreuve du monde qui est aussi, qui double celle-là, qui de cette manière rend celle-là pas suffisante pour me faire être dans le monde d'aujourd'hui. Pas suffisante.
Je crois que vous avez mentionné, je crois, si je ne me trompe pas, le terme originalité. Par contre, j'ai pas entendu éthique et message, et ça me pose problème quand même.
Message, est-ce que vous voulez juste tout petit
message? Peut-être c'est une combinaison d'éthique et d'originalité, je ne sais pas.
Par rapport à c'est quand tu dis ça, c'est par rapport à la production de l'image,
oui, par rapport
du message, tu mets du message.
La personne qui est derrière un appareil photographique ou une caméra, au départ, on fait chacun nos expériences, mais à partir d'un moment où on touche un public un peu plus large, on est obligé de développer, je crois, si on a un peu d'originalité, un message. Et aussi une éthique, parce que on va pas s'en servir n'importe comment, tout va, dans toute situation. Enfin, ça, chacun.
En radicalisant un peu ma réponse, je dirais que par essence, un appareil photographique, c'est un appareil à couper les messages, à couper voilà. Je pense qu'il y a un rapport. Je pense avec Benjamin, enfin en tout cas avec la façon dont je le comprends. Je pense que la photographie, c'est quelque chose qui est essentiellement lié à l'insignifiant. Voilà. Et peut-être c'est sa valeur, c'est sa capacité de montrer combien et comment nous tenons à l'insignifiant. Voilà. Des fois, je pense que ce qui peut nous faire mal, c'est la lourdeur des messages qu'on nous transmet. On peut aussi renverser ce problème-là. Voilà.
Délayer un peu. Délayer.
Les images, par exemple, les images qu'on dit photographiques, ou les usages que j'ai appelés très rapidement, un peu trop rapidement dans ma conclusion, les usages dominants, on va dire les usages dominants de la photographie, on pourrait aussi dire les usages dominant la photographie, dans l'époque, sont peut-être des usages, pardon, qui chargent l'image photographique de messages, alors qu'elle n'est pas faite pour ça. Donc, il la dénature. Il la dénature, et la chargeant de messages et la dénaturant, ils ne nous permettent pas de comprendre sa réalité même, son fait même. Ils ne nous permettent pas de l'apercevoir. Et peut-être que saisir ce qui se passe avec une photographie passe par la capacité de faire et d'accueillir et d'accepter quelque chose qui a rapport à l'insignifiant. Ce qui est une idée paradoxale.
J'ai besoin encore d'aller là-bas, quoi.
Ouais.
Je suis là.
Une chose, moi, qui m'est très surprenante dans la photo, c'est le hors-champ, en fait. C'est très insignifié, mais c'est signifié. Le photographe est dans le hors-champ. Il existe à travers le hors-champ. Enfin, il y a beaucoup de choses qui existent dans la photo qui ne seront jamais signifiées.
Mais il y a, enfin moi ce qui m'intéresse toujours sur la photo, c'est ça, c'est le hors-champ. En fait, c'est l'incapacité de pouvoir faire une globalité.
Ben c'est le fragment, oui.
C'est des fragments, oui, mais ouais. C'est la présence du hors-champ, en fait, qui n'est pas représentable, en fait. Ça, ça m'intéresse beaucoup, ça. Le hors-champ d'une photo, c'est... Je crois que c'est ce qui m'intéresse plus sur une photo que la photo elle-même.
Enfin, la présence du hors-champ, elle est... Enfin, c'est pas une présence.
Hein. Oui, mais justement, c'est pas une présence, mais c'est pourtant ce qui constitue quelque part la photo aussi. Donc,
ouais. C'est-à-dire qu'on peut dire, que la photographie apparaît, on peut dire ça comme ça aussi, la photographie apparaissant, ça fait à la disparition.
Oui, c'est ça.
À la disparition donc, de ce que vous appelez le hors-champ, à la disparition de la continuité intentionnelle, la continuité de l'expérience du photographe et du sujet photographique. Autre chose que la continuation de l'expérience des uns et des autres est présent sur une photographie.
Oui, parce qu'il y a quand même le regard du photographe particulier du détail, en fait, qui va mettre le reste du monde dans leur champ. Il va prendre que des lignes. Ça veut dire qu'il va... Ça interroge.
Oui.
Il y a ça, puis aussi, on se trouve pas. Une photo retouchée, ça appartient à... Ah. À quoi
J'ai pas répondu sur éthique. Sur la question de la retouche, alors c'est pour moi une question très compliquée. J'ai réussi à faire tenir quelques phrases sur, on va dire, ce qu'on appelle la prise de vue. Alors, moi, j'aime pas ce mot de prise parce que justement, je pense pas qu'une photographie authentique capture ou prenne. Quelque chose du monde. Je pense que justement la photographie consiste dans une c'est pour ça que je disais tout à l'heure, elle n'est pas documentaire, dans l'abandon, dans la disparition, enfin voilà. C'est pour ça qu'on comprend, enfin je veux dire, il y a une idée du... Faut que vous me redonniez votre question, parce que je suis parti sur
non,
les associations.
La première fois c'était leur champ, mais après c'était sur une image retouchée.
Ah oui, la retouche.
Ce qu'on va faire quand on va rajouter des réels, enfin des couches, on pourrait dire qu'on travaille par couches. On pourrait rajouter, je sais pas, au milieu de la mer un bateau, mais c'est pas le bateau au milieu de la mer, c'est une couche.
Avant de redire donc la question de la retouche, je vais rester quand même un tout petit peu sur mon dossier. Il y a un mot qui me semble être un mot piège, c'est celui de reporter, de reporter, to report, celui qui reporte quelque chose de là-bas à ici. Alors évidemment, si mon analyse est juste, si elle est clairement exposée, ce qui est pas sûr, vous pouvez entendre qu'il y a dans mon propos une critique radicale de la notion de reportage. Puisque dans une photographie, il ne nous est pas ramené quelque chose de là-bas. La photographie est de toute façon la production d'un espace-temps spécifique. C'est-à-dire, donc il y aurait, à mon avis, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur l'illusion du reportage. Moi, j'appellerais l'illusion radicale du reportage. Alors, a fortiori, si on décale ces analyses avec d'autres appareils qu'on dit de prise de vue ou de prise de son, alors que c'est le mot prise qui fait problème, ce sont des appareils de fabrique de vue et de fabrique de son. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, vous voyez bien que le rapport, je dirais, de crédit ou de confiance qu'on peut avoir a priori dans l'image n'est pas le même si vous entendez mon analyse et ma critique que si vous ne l'entendez pas. Donc il y a un enjeu, si vous voulez, hein. Une façon de peut-être de vous répondre, pas vraiment sur éthique, mais quand même un peu sur politique, quand même. Bon. Alors ensuite, justement, la retouche. Il y a une deuxième opération qui concerne la photographie, qui est donc la révélation de l'image au moment du tirage. Voilà. Alors ça mériterait en soi une analyse. Comme je me tenais à Benjamin, je ne me suis pas spécialement intéressé à toutes les questions qui peuvent être liées à la pensée du tirage. Alors là, il y a peut-être une morale du tirage, je ne sais pas si c'est une éthique, mais une morale du tirage qui consiste à savoir justement qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Je pense qu'il y a une deuxième fabrique de l'image. Souvent, les retouches sont une façon de rapatrier la photographie dans un art qui n'est pas le sien, dans une technique qui n'est pas la sienne, qui serait plutôt la peinture, etc. Et puis, si on va aujourd'hui, maintenant, du côté d'appareils qui sont peut-être un peu différents, enfin, dont il faudrait penser toute la complexité technique, hein, avant. En fait, c'est ça que j'essaie de montrer. Je pense que je l'ai dit peut-être un peu rapidement tout à l'heure. C'est que, Benjamin nous permet, si vous voulez, je ne peux pas dire ça, de déduire ou d'avoir des pensées sur la politique à partir d'une analyse de la technique et de l'esthétique qui résulte d'un travail avec les techniques. Donc, par exemple, à la longue, dans l'analyse de la prise de vue, entre guillemets, vous entendez qu'il y a des enjeux sur est-ce qu'une image photographique est par essence un reportage ou pas. Si vous dites non, ce n'est pas par essence un reportage, vous êtes obligé d'en déduire quelque chose quant à la crédibilité de ce qu'on appelle un reportage, a priori, oui, etc. Voilà. Avec les appareils de numériques, disons, il va falloir reposer la question. Parce que la question de la retouche, par exemple, qui est une question pas secondaire, mais une question qui se pose dans un second temps, dans la fabrique de la photographie, il n'y a pas de retouche. La retouche, c'est quelque chose qui vient dans un second temps. On peut se demander, avec les codages, qu'est-ce qu'il en est au juste. Voilà. Donc, il faut relancer cette méthode d'analyse pour les appareils de la nouvelle génération d'inventions qui viennent de nous arriver.
Il y a bien une autre question assez proche de celle que vous avez posée. Vous parlez du cadre comme propre à la photographie. Alors, il me semble, pour avoir pratiqué l'expérience, expérimenté moi-même, et pour l'avoir lu, c'est qu'un peintre, quand il travaille, comme disait Cézanne, sur le motif, les impressionnistes ont dit qu'il travaille sur le motif, donc un peintre cadre, de fait, c'est-à-dire qu'il ne, devant un paysage, quel qu'il soit, il ne va saisir qu'une partie. Bon, il y a, mettons là, trois arbres, il va en garder deux. Là, il y a une maison, il va juste faire apparaître un pan de mur. Ainsi de suite, si vous voulez. C'est-à-dire que le tableau qu'il peint, il va le composer, mais sans un rapport absolument direct, disons, d'exacte soumission par rapport à ce que propose la nature. Disons, la nature fait des propositions, et le peintre organise en fonction d'une idée qu'il a dans l'esprit, donc une idée qui est sans doute liée à des idées de symétrie, de proportion, etc. Donc on peut dire, si vous voulez, que dans le tableau et dans son esprit, va se préfigurer une totalité, que ce pinceau va peu à peu construire. Et il y a une deuxième question que je poserais bien, et que laisse entendre vos propos, ce serait au fond que l'histoire de la photographie serait l'histoire de ses mésusages, c'est-à-dire le fait, on peut penser au pictorialisme, le fait, si vous voulez, de rapporter la photographie en tirant vers la peinture, et si j'ai bien compris, en ne laissant pas apercevoir son aspect le plus original, non captif, etc. Est-ce que vous pourriez.
Je n'ai pas compris la première question, mais j'ai très bien entendu la seconde.
La première est très simple, une objection. Je ne pense pas, si vous voulez, qu'un peintre ne cadre pas.
Ah oui.
Un photographe cadre, comme disait madame. Je pense que, enfin, un peintre, si vous voulez, travaillant sur nature, effectivement, cadre. Parce que tout ne peut pas tenir dans un tableau. C'est une espèce de truisme absolu. Vous êtes obligé de faire des choix décisifs. Et c'est ces choix qui font de vous un peintre.
Oui.
Alors, je vous laisse.
On pourrait, enfin, je sais pas, moi c'est des questions qui me passionnent, je pourrais en parler extrêmement longtemps. On discutait, donc le cadrage n'est pas rien dans la photographie, bien entendu. Mais je ne pense pas que ce soit l'essentiel de la photographie. L'essentiel, c'est ce qui se passe c'est l'opération chimique. De toute façon, c'est ça qui a été le plus long à inventer. Parce que la question des cadrages, ça existe dans la peinture flamande, etc. Les points de fuite à l'extérieur des tableaux, ça existe aussi. Enfin, ça, donc les hors-champs, d'une certaine manière, existent déjà. Tout ça n'est pas. Les caméras obscures existent aussi. Et ça, ce qui était extrêmement. Ce qui aura été long à inventer, c'est la chimie de l'affaire. Et qu'on a souvent longtemps pensé comme étant justement le fait que, grâce à cette opération chimique, perdurait quelque chose du réel dans une image photographique. Or, je pense que le fonctionnement de l'appareil, l'essence même de l'appareil, donc comme j'ai essayé de le dire à plusieurs reprises ce soir, est lié au contraire, non pas au fait que ça perdure, mais au fait que ça coupe. Donc plutôt que les cadrages, je pense que l'essentiel de l'opération photographique est dans la coupure, dans la continuité du monde. hein, dans la coupure, dans la continuité du monde et dans la continuité des intentions. Alors c'est peut-être ce qui fait que même s'il y a des peintres qui sont des peintres contemporains de la photographie, l'histoire de la photographie ne pouvait pas ne rien faire à la peinture et ça l'a redimensionné, replacé, etc. Je pense que cette expérience de la discontinuité que le photographe, à mon avis, fait, le peintre, effectivement, ne la fait pas en tant que peintre, je dirais. Il peut la faire autant, évidemment, que personne qui pratique la photographie, etc. Mais il y a une continuité du geste, si vous voulez, alors qu'il y a une discontinuité radicale et essentielle du geste ou de la gestation photographique. Alors, l'autre question, c'était sur les mésusages de la... Donc moi, je suis absolument d'accord avec ça. Je pense que l'histoire de la photographie, c'est l'histoire de ces mésusages. Je me permettrai d'avoir un tout petit désaccord avec un des mots que vous avez utilisé, c'est celui d'original, je crois. Je ne sais plus comment vous l'avez... Moi, je proposerais, je sais que c'est très délicat, ces opérations langagières, mais je proposerais plutôt authentique. C'est-à-dire que plutôt qu'original, parce que justement, il n'y a pas d'original, il n'y a pas de valeur d'original à aucun point de vue, je crois, avec la photographie. En revanche, il y a des photographies qui sont authentiques. C'est-à-dire qu'il y a des images photographiques qui authentifient dans le regard de celui qui regarde ou de celle qui regarde, le fait que c'est une image photographique et pas une image d'une autre nature. Voilà. Mais moi, je suis prêt à généraliser ce que je vous accorde à propos de la photographie. L'histoire de la photographie, c'est l'histoire de ses mésusages. Je pense de plus en plus qu'on peut généraliser ça, peut-être, à toute technique. L'histoire des techniques est malheureusement, je dirais, faite des mésusages, des capacités techniques, des puissances techniques en général. Je propose une petite distinction terminologique pour dire ça, qui est la différence qu'il y a entre être employé et travailler. Hein? Je pense que les employés ne travaillent pas, pour dire ça comme ça. Hein? L'histoire des techniques aussi, c'est-à-dire que nous, finalement, de sa manière, nous sommes capables de faire aux objets techniques ce que nous nous faisons à nous autres, hein, pour ne pas dire à nous-mêmes. Bon. C'est-à-dire nous sommes capables d'employer les objets techniques à des fins qui nous obligent à les forcer dans une certaine mesure. C'est ce qui se passe avec la photographie quand on veut, par exemple, peut-être employer la photographie à des fins de reportage ou à des fins de message. Il faut entretenir un rapport de force avec la technique. Voilà. Et on peut dire mes usages, peut-être on peut dire aussi ça. Et je pense qu'il y a... Alors, c'est ce que j'appelle des appareils. Alors, toutes les techniques sont pas complexes du point de vue de leurs usages. Hein. Bon, il y a des instruments. Avec les instruments, je dirais, il n'y a pas à travailler. Hein. Mais ce que moi j'appelle des appareils, ce sont des objets techniques complexes qui sont justement ouverts aux mésusages, à la force, au rapport de force, et puis qui peuvent aussi donner lieu à travail avec eux et non pas contre eux. Donc, effectivement, une partie de l'histoire de la photographie est faite d'un travail contre la photographie elle-même, ce qui ne permet pas de l'authentifier. Le cinéma a connu une histoire assez proche.
Ouais, et puis il y a la dimension politique aussi, parce que les images sont pas... Les images ou les images ensuite, c'est-à-dire les films, sont pas forcément dénuées de tout sens, de tout contexte, c'est une histoire personnelle dans la grande histoire. Comment va-t-elle s'inscrire par rapport à ou en compte ou pas en compte? Moi, je pense plus particulièrement à une période qui m'a marqué, c'est la guerre 39-45, qui est malheureusement après les années 30. J'ai perdu un grand-père et je sais que personnellement, je suis très intéressé par les films historiques parce que justement, ils authentifient par rapport à quelqu'un qui est révisionniste. C'est un peu cette dimension aussi, je sais pas.
Ouais. Ben, c'est une vaste question. Hein. Euh, Je ne suis pas sûr. Je sais que c'est extrêmement difficile à penser. Enfin, je ne suis pas sûr que les images de type, les plans, disons, de type photographique qu'on peut trouver au cinéma, disons, je ne suis pas sûr que ça soit, comment dire, que ça soit en soi des lieux de vérité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'une image pour établir, oui, pour établir une vérité. Ça se passe ailleurs, la vérité. C'est pour ça que je vous proposais tout à l'heure de dire que... et d'ailleurs, pour qu'on sache où ça se passe, la vérité, hein, pour qu'on sache où ça se passe, c'est-à-dire comment s'établit une vérité, qu'est-ce qui fait qu'il y a du vrai pour nous, etc., entre nous, il ne faut pas qu'on se trompe sur son lieu. Voilà. Il ne faut pas qu'on pense... peut-être que la vérité se trouve, que quelque chose à quoi le nom de vérité conviendrait se trouve sur une image de type photographique, s'il est vrai que ces images sont par essence insignifiantes.
Vous vous dites un petit peu ce qu'on a évoqué encore l'autre soir avec la Gis Michel, il n'y a pas d'image juste, c'est juste une image.
Ouais, enfin, c'est la femme soise de Godard.
Un petit peu à ça, c'est juste une image.
Le problème du cinéma, c'est que dès qu'on met deux images côte à côte, c'est le problème du montage. Hein. C'est pour ça que j'ai essayé de répondre là en termes de plan. C'est pas la même chose si on s'intéresse au plan dans un film et si on s'intéresse au film, c'est-à-dire à un montage de plans les uns derrière les autres. Parce que si vous mettez deux plans, ce qui est le principe même de fabrication, ce qu'on appelle un film, alors là, il y a des cinéastes... D'ailleurs, j'avais pensé en proposer un là pour les soirées vidéo, sauf que justement, c'est pas des vidéos, quoi. Donc ça change tout en réalité. Mais bon, bref, si on monte des images les unes contre les autres, on entre dans une opération qui est de type, on va dire, syntaxique ou discursive. On commence à faire du discours. Alors là, du coup, on est dans
donc on crée du sens.
Un problème de vérité possible, exactement. Et l'idée de les cinéastes ont cherché, hein, de faire des montages qui seraient insignifiants. C'est un travail qui... je ne connais pas d'exemple. Hein. De montage insignifiant. Des plans insignifiants, oui, mais des montages insignifiants. Voilà. Donc là, on est avec... À partir du moment où on est dans, non pas dans la fabrique du plan, mais dans la fabrique du film, donc dans le montage, on est dans quelque chose qui a probablement... entre dans le registre du discours, donc pose des problèmes de vérité.
La narration.
Voilà. Hein, pose des problèmes de vérité.
D'ailleurs, deux petites choses. Je suis pas en désaccord avec ce que vous venez de dire sur la suspicion qui pèse sur la photo en tant que témoignage. C'est pas la photo qui établit une vérité, mais il faut quand même dire que c'est juste au moment où... d'abord, il y a l'expression, il n'y a pas photo, ça, mais juste au moment où les questions d'arbitrer sur photo, ou bien les matchs de tennis ou de foot, etc. Donc la photo, à un moment donné, quand on dit qu'il n'y a pas photo pour arriver du tiercé, la photo peut quand même établir, et peut-être dans certaines circonstances, une forme de témoignage, malgré tout. Bon, ça, c'est une première chose qui est peut-être un peu anecdotique, mais qui module, enfin, qui peut-être conduit à remoduler un peu ce que vous dites sur la photo, qui n'est pas, constitue pas en lui-même un témoignage, avec lequel je suis d'accord. L'autre point qui est peut-être, mais ça nous entraîne peut-être trop loin, et l'état, enfin, c'est un peu en réponse une question qui a été posée en tout début, c'est avant la photo et avant l'appareillage reproductif, qu'est-ce qui structurait notre perception. Il me semble que, pour moi, une piste de réponse aurait été le langage, quand même. C'est le langage, c'était, notamment à travers sa fonction, faire des récits, des mythes, c'était une façon de permettre de reproduire une histoire, de reproduire des légendes. Donc c'était le mode de reproduction, et un mode de reproduction discursif qui avait un tout autre statut précisément que ce dont vous nous parlez ce soir, qui correspond, et le mot n'a pas été bizarrement, le mot n'a pas été lancé, alors que c'est un mot auquel je m'attendais beaucoup, qui est un figement. Le mot de figement n'a pas été lancé. Et le figement, il est à la fois, il permet à la fois l'instantané, donc peut-être justement d'arrêter d'une certaine façon ce qui est un mouvement, donc de voir autrement pour le meilleur et pour le pire. Aussi, le figement, c'est aussi, ça représente quand même quelque chose d'un petit peu mortifère, et aussi le caractère dégénérescent du reproductible appareillé. Enfin, je dis trop de choses à la fois, et il y avait deux parties, la petite modulation sur ce que vous avez dit, et puis qu'au fond, beaucoup de ce qui s'est dit ce soir implicitement joue sur le rapport entre le langage et d'autres formes de représentation. Ouais. Que
je vais dire un mot là-dessus, si vous voulez bien, mais d'abord sur le figement et le côté mortifère, je ne pouvais pas utiliser ces mots-là pour deux raisons. La première, c'est que j'essaye de produire j'ai dit Benjamin n'est pas un penseur nostalgique, etc. C'est-à-dire justement, j'essaye de dire, même si ça passe par des affirmations qui sont au sens propre du mot paradoxal, c'est-à-dire qui vont contre l'opinion, quoi, contre l'opinion, établie ou courante ou dominante. Donc j'essaye de dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une naissance la parution, disons, de nouveaux appareils. Il y a quelque chose de l'ordre d'une naissance, d'une possibilité, et que l'attitude de l'ouverture est plus intéressante pour nous que l'attitude du repli et de la... Voilà. Et en plus, par essence, j'ai essayé de dire que la photographie a pas affaire au figé, si on entend par figé le fait de ralentir un mouvement et de l'immobiliser. Non, la photographie a affaire à une coupure avec le flux. Alors que figé, c'est pas coupé avec le flux, c'est arrivé au degré zéro. Donc un ralenti, par exemple, c'est pas une opération photographique, pour dire ça comme ça, pour aller très très vite. L'autre partie,
C'est sur le langage.
Oui, je pense que c'est une question de fond, c'est-à-dire on pourrait avoir un débat, par exemple, avec Jacques Rancière sur cette question-là. Donc il est probable que Jacques Rancière, qui dans une certaine mesure, en théorie en tout cas, je ne parle pas de lui personnellement, mais à mon avis, fait du cinéma, et en particulier du cinéma en tant que c'est des montages de plans, donc un art discursif, une référence plus essentielle que la photographie. Mais pourquoi ? Parce que ce que lui pense radical, c'est précisément la façon dont s'implique le disciple et le visible, le disciple et le sensible. Implication au sens étymologique, il y a le fait d'être plié dedans, impliqué, c'est le contraire de expliqué. Bon. L'implication du disciple dans le visible, d'une certaine manière, on pourrait dire, beaucoup de gens pensent ça, c'est tout l'art. Tout est là, la façon dont on fait tenir du discours dans quelque chose qui, a priori, n'est pas du discours, parce que c'est fixe, parce que c'est une image, enfin, un tableau, etc. Mais je pense que la photographie, alors, c'est ce qui fait aussi que par exemple, Jacques Rancière n'est pas benjaminien. Il le déclare très, très clairement. Benjamin dit que la photographie a fait époque. C'est-à-dire précisément, voici une technique qui nous a amené des images dans lesquelles, par essence, par nature, ne s'implique pas du disciple. C'est-à-dire qu'elle détache le registre du visible et le registre du disciple. Donc il y a un mode d'articulation du langage sur la photographie qui est spécifique. Donc, je peux en reparler éventuellement. Benjamin parlait du fait que finalement on n'explique pas une photographie, enfin c'est pas lui qui disait ça comme ça, c'est moi là. On n'explique pas une photographie, on la commente, voilà. Parce que l'image n'est pas déjà quelque chose qui nous dit quelque chose, si c'est une photographie authentique.
Je suis un séminaire sur la mélancolie, sur les visées esthétiques dans la mélancolie. Et enfin, il décrit la mélancolie comme étant une absence de relief, en fait, entre tout ce beau. Et où sortir de la mélancolie, ça serait donner une dimension aux choses, donner un sens, donner une troisième dimension. Et est-ce que la photographie, justement, ça ne fait pas ça? Ça sort de. Ça fait du différentiel dans un champ complet, on va dire. On va différencier quelque chose, on va peut-être dans cette coupure, justement, voilà, où là il y a de l'émergence de sens ou de signifiant, on va donner une forme de perspective, où on va. Ça a plus de valeur que ça, parce que je l'ai pris en photo, enfin, je veux dire, on l'a impliqué dans un désir ou dans une forme dans un signifié.
Je crois que je suis d'accord avec vous sur ce que je comprends de ce qui m'apparaît comme votre intention, si vous voulez, mais moi, je ne le dirais pas comme ça. Voilà. C'est-à-dire que... je ne sais pas si nous avons tant que ça, ou tellement que ça, besoin de nous donner du sens. Voilà. Je me demande si... Alors moi, je dirais plutôt... l'expression, j'essaye d'éviter cette expression-là, disons. Voilà. J'essaye de raisonner en parlant comme ça. Je me demande qu'est-ce qui nous intéresse.
Qu'est-ce qu'on réalise
En tout cas, je pense que... enfin, ce qui nous intéresse, pour mal parler, on peut dire, mais quand même pour faire entendre quelque chose, ce qui intéresse nous, hein, ce qui est intéressant pour qu'un nous vif, quoi, alerte, comme j'essayais de dire tout à l'heure, existe, parvienne à exister, c'est peut-être pas la surcharge de sens. Donc peut-être l'insignifiance n'est pas quelque chose qui nous est indifférent. Ça peut nous intéresser et peut-être aussi donc nous pouvons nous retrouver sur nous retrouver, c'est pas le bon mot.
Moi j'aimerais se retrouver parce que moi je crois qu'il y a peut-être quelque chose qui justement se retrouver. Qu'est-ce que je signifie qui me revient en fait?
Qu'est-ce
qui me revient en fait dans l'image?
Oui, mais je comprends bien dans la logique de votre expression. Mais je suis désolé d'avoir lâché ce verre parce que c'est. Alors celui-là, je le retire de l'enregistrement. Hein, retrouver n'est pas le bon mot. C'est bon. Je voulais un peu jouer sur intéresser quoi. Je lis le fait d'être intéressé à une expression qu'on va dire y être. Hein, on dit ah j'y suis, vous voyez, là, vraiment j'y suis là. Bon, ce qui nous permet d'y être au monde, c'est peut-être pas forcément des opérations de sens. Je dis pas que c'est pas du tout les opérations de sens. Je dis que c'est pas seulement les opérations de sens. Voilà. Et que
les sens après. C'est pas le sens. Réaliser ce que je réalise, parce que si je suis dans le sens de devoir expliquer avant de faire quoi, d'agir, enfin, bon, ça dépend de quoi on parle. Je suis plus dans l'acte création. Moi, je ne parle pas de penser dans l'activisme sans penser, c'est pas ça. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose. Je ne sais pas comment tu as dit ça tout à l'heure. Voilà. Il y a quelque chose qui est là.
Oui.
Et c'est quelque chose qui est là. Cela, ça. C'est ça qui fait peut-être après qu'il est possible du nouveau. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je ne sais pas. Enfin, je ne veux pas non plus dire autre chose que vous l'ayez dit.
De toute façon, il y a peut-être plusieurs niveaux de nous. Il y a un niveau de nous. C'est pour ça que le livre où j'avais mis cette phrase, cette petite expression là, ici et là, il s'intitule Du commun. Et une des thèses du livre, c'était aussi de dire qu'il y a, on pourrait dire, j'ai appelé du commun, j'ai pas dit de la communauté. Je pense qu'il y a une différence entre être commun et être en commun. La différence, c'est que nous sommes des communs les uns les autres, je dirais de façon diffuse. Hein, nous sommes des communs diffus, quoi, par le fait que nous partageons un être au monde, une sensibilité, etc. Et ce commun n'est pas nécessairement identifié comme une communauté qui se sait être... Donc il n'y a pas d'identité commune, il y a quand même un commun. Je pense que la photographie est là, quoi. Ça fait partie du commun, et pas forcément d'un commun identifié, partagé, nommé, hein, dans une communauté qui se sait être commune. Voilà. Par ailleurs, parce que tout n'est pas forcément synthétisable. Par ailleurs, je propose quand même de réfléchir à cette hypothèse que nous pourrions, pourquoi pas, être intéressés par de l'insignifiant. et pas nécessairement ou pas seulement par du message, par du sens, par de la communauté, etc. Nous sommes concernés, on va dire ça comme ça, si nous sommes concernés par l'insignifiant et que cet insignifiant, comment dire, nous apparaisse, et peut-être aussi une affaire qui n'est pas négligeable. Voilà. Mais ça ne passera pas par des discours, ça passera par des pratiques.
Il y a encore une idée fort intéressante que vous souligniez, c'était la différence entre ce que saisit, entre guillemets, saisir la photo, à savoir le fragment, et ce désir de totalité qui semble avoir, au moins, habité la peinture.
Oui.
Et une totalité où le peintre s'englobe parfois lui-même dans la saisie de la chose.
Dans la toile.
Voilà, exactement, Velázquez dans les Ménines.
Exactement.
Voilà.
On en déduit qu'il s'agit d'arts qui ne sont pas, comment dire ça, qui ne sont pas de même nature, ou qui sont pas à l'évidence contemporains l'un de l'autre. Ils ne sont pas au sens précis du mot contemporain, ils ne sont pas du même temps. Ils ne sont pas du même temps. C'est d'ailleurs une question, enfin c'est une question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une peinture contemporaine de la photographie. C'est une question. D'ailleurs, les peintres ont eu affaire à cette question. Beaucoup l'ont traité, cette question de la peinture soi-disant contemporaine de la photographie, en usant de la photographie. C'est-à-dire en travaillant d'après photographie ou en important des collages photographiques, etc., mais en ayant un rapport qui est finalement un rapport de souveraineté ou de domination à l'égard de la photographie. Autre chose est de définir ce que c'est qu'une peinture contemporaine de la photographie, qui est toujours une peinture, mais voilà. Je pense que une réponse, si on passe par Benjamin, enfin moi, par ailleurs, je souscrirais tout à fait à ça. Ça serait de dire par exemple Paul Klee. Je pense que Paul Klee, c'est une peinture contemporaine de la photographie, mais ça suppose un redimensionnement, une redéfinition assez radicale de ce que c'est que faire de la peinture.
Quand vous parlez d'insignifiant, est-ce que vous voulez parler d'insignifiant comme de quelque chose qui n'incite pas à penser, qui décourage de penser, ou qui permet à l'homme de se demeurer dans ce que Kant appelait la minorité?
Je ne sais pas là-dessus, je crois pas le texte de Kant dans mon état tout de suite, mais
c'est le fameux article. Qu'est-ce que les lumières?
Ah oui, j'ai pensé à Kant tout à l'heure, mais un peu différemment. Dans la critique de la faculté de juger, il y a un petit passage où Kant parle de la communicabilité, où il associe l'expérience du beau et par extension, on va dire, l'expérience de l'art en tant que l'art est voué à faire du beau. Hein. Mais disons, l'expérience du beau, il l'associe à ce qu'il appelle la communicabilité. Ce que beaucoup de gens entendent comme s'il disait communication. Mais il ne dit pas ça. Il dit communicabilité, c'est-à-dire que l'expérience du beau, il la définit comme étant par essence communicable, c'est-à-dire en fait, elle induit chez moi, lorsque je dis, au fond, quand je dis de quelque chose, quelque part, je ne sais pas quoi, peu importe, quand je dis de quelque chose, c'est beau, au fond, ce qui s'engage par cette phrase, c'est quelque chose comme je voudrais bien te dire. Combien c'est beau. Et je pourrais en parler interminablement, je ne parviendrai jamais à dire pourquoi c'est beau. C'est communicable et c'est jamais communiqué. Voilà. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui reste de ça dans l'insignifiant. C'est-à-dire que peut-être que l'insignifiant, c'est quelque chose qui peut engager une opération de communicabilité qui est essentiellement le fondement de la sociabilité. C'est-à-dire, être dans une relation de sociabilité, c'est pas... réussir à communiquer aux autres et à leur passer des messages, c'est être dans une relation interminable d'envie de parler avec eux. C'est aussi simple que ça. Donc c'est le communicable qui est essentiel à la société et pas la communication. Je pense que vous m'accorderez cette distinction. Voilà. Donc, alors, Est-ce que pour que le communicable s'entretienne parmi nous, Kant disait, il faut qu'il y ait l'expérience de la beauté. Il faut qu'il y ait... Or, le c'est beau ne s'explique pas. Voilà, c'est quand même une des philosophies esthétiques les plus fortes qui existent, qui explique que le beau est, résiste à l'explication. Voilà. Mais l'insignifiant... d'une autre manière, je dirais que chez Benjamin, je peux en reparler peut-être la prochaine fois ou dans l'une des deux séances... ce qui est posé par la photographie, c'est un rapport au langage tel que il n'y a pas d'explication d'une photographie dans une phrase. Donc ça entretient un rapport au discours qui est tel que ça appelle du discours. Ça appelle, il y a une très belle traduction de la petite histoire de la photographie qui utilise le verbe engrener. Ça invite à engrener des phrases, mais ces phrases ne sont pas des phrases qui rendent raison, qui rendent gorge, on pourrait dire, qui rendent de cette expérience-là. Est-ce que je dis autre chose, moi, quand je propose d'insister sur le mot insignifiant ? Quelque chose qui excède notre capacité à réussir une communication. Et le paradoxe, c'est que ne pas réussir à communiquer, c'est ça qui nous entretient dans l'être ensemble. Par ailleurs, nous avons besoin de communication pour... Voilà. Je précise quand même. Nous ne pourrions pas non plus vivre sans communication, mais ça ne suffit pas que nous communiquions pour que nous existions.
Est-ce qu'on pourrait mettre l'idée que prendre, enfin décider quelque part l'acte photographique, la coupure, ça ne serait pas un miroir du photographe ? Ça veut dire qu'il verrait l'expression de son désir ou ça ferait retour de quelque chose qui est...
Là, on veut gérer le désir, là, cette machine qui fait clic-clac.
Non, c'est l'idée, quelque part, qu'il y a coupure possible, et il y a quelque part retour d'image, en fait. Il y a retour de moi, parce que c'est... Je vais choisir, donc il y a... C'est de l'ordre de mon désir, c'est de l'ordre de la présentification de quelque chose...
Après.
Que je recherche dans l'instant, que je recherche à où j'existe... Où j'existe, je vais photographier. Et c'est peut-être pour ça que pour moi, il n'y a peut-être pas d'insignifiant. Je ne peux faire que du signifiant. Enfin, je peux que, même si c'est par la coupure.
Ouais.
Mais il y a quelque part, j'existe où je photographie. Parce que je photographie. Et puis moi, je m'amuse, des fois, j'ai un petit appareil. Je m'amuse à me poser sur la table et à faire des photos et puis je tourne. Mais il y a quand même il y a des découpes, il y a des points. Il y a chercher où je suis, peut-être. Donc,
il y a
où ça fait le miroir.
Oui.
Exactement.
Enfin, sur le miroir, il y a une coprésence du sujet et du sujet qui se regarde et de son image dans le miroir. Hein. Dans la photographie, non, il n'y a pas cette coprésence. C'est-à-dire, vous pouvez. Il vous vient en une espèce de feedback comme ça, un retour, une image. Donc vous pouvez vous dire, ah c'est moi là sur la photographie, mais il y a le moi qui se reconnaît et le moi qui est reconnu ne sont pas contemporains au sens, c'est pas comme dans le miroir de ce point de vue là, il y a quand même quelque chose qui est d'une autre nature, donc la procédure de la reconnaissance, disons, elle est il faut l'analyser à mon avis avec d'autres éléments que l'expérience du miroir. Et voilà.
Et qu'est-ce que vous pensez des appareils numériques ?
En tant qu'appareil photographique ?
Oui.
Vous me demandez si ce sont des appareils photographiques. Moi, je pense qu'ils sont très mal nommés si on dit que ce sont des appareils photographiques, parce qu'ils ne graphient pas la photo, la lumière. Ils l'encodent. Et je pense que sous des allures d'appareils photographiques, il s'agit d'appareils d'une autre nature.
Oui, photo
pour des raisons techniques, foncières.
Commerciales.
Je ne dis pas que ce sont des appareils inintéressants, hein, en aucune manière. Mais bon, peut-être justement, voilà, on est dans un cas où le fait qu'il y ait une rupture technique entre l'appareil, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, les Canadiens ont un mot pour ça. Oui, l'appareil photographique, proprement parlé. Comment est-ce qu'ils disent les Canadiens, des photocodes? Je ne sais plus comment. Bon, ils ont un mot. Il y a une rupture technologique qui n'est pas évidente parce qu'elle est, enfermée dans une allure d'appareil. Qui fait qu'on a l'impression que c'est en continuité alors que c'est pas en continuité.
On n'a pas nommé la chose.
Non, on ne lui a pas donné de nom encore. Mais on ne lui a pas donné de nom parce qu'on n'a pas encore fait apparaître la spécificité technique, la spécificité esthétique de cette technique-là. C'est-à-dire qu'on fait des photographies numériques comme des photographies argentiques au tirage près, quand même. Hein. Et en fait, voilà. La spécificité du numérique, la qualité esthétique et les valeurs esthétiques du numérique en général, à mon avis, ne sont pas encore véritablement apparues, n'ont pas encore trouvé leur esthétique propre. Donc il y a du travail à faire. Sur les flous, sur les espaces, sur...
Pardon ? Il n'y a pas de profondeur de champ.
Voilà, moi, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas de réponse. Hein, mais, voilà. On a besoin d'artistes aussi pour nous susciter la pensée, hein, des pratiques, des réalisations qui nous intéressent.
Bien. Merci
pour vos questions parce que je pense qu'elles m'ont permis de m'animer.
Est-ce que vous avez en tête la référence approximative?